Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliquène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. Une interview croisée avec Claire Mondré, fondatrice du podcast Slower Stories. Ensemble, on parle des coulisses de nos podcasts respectifs, de notre vie et de nos questionnements d'entrepreneuse, mais également de bien-être et de développement personnel, thème de nos podcasts. Bonne écoute et rendez-vous sur nos comptes Instagram pour un concours en partenariat avec Anatae Matcha, thé vert récolté à la main au Japon. Bonjour Claire.
Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien.
Bah ouais.
Je suis contente de te retrouver aujourd'hui.
Moi aussi, complètement. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait ni l'une ni l'autre, de se confier un peu sur les backstage de nos vies, de nos podcasts et tout ça. Donc je trouve ça super chouette qu'on le fasse ensemble.
Moi aussi, j'aime beaucoup l'idée et je l'ai parfois entendu, tu vois, dans d'autres émissions et on apprend toujours, il y a toujours une vision différente et du coup c'est hyper enrichissant, donc je suis contente.
C'est clair, moi aussi. En plus j'adore, t'as un petit accent chantant à chaque fois qu'on parle, je t'en parle.
Écoute, tout début j'essayais de l'effacer un petit peu et puis après je me suis dit ça sert à rien, les gens trouvent ça finalement assez agréable.
Oui, ça me rappelle mes copines de Perpignan parce que j'ai mon petit village dans le sud à côté de Perpignan, donc ça me rappelle, j'adore. Je te propose de commencer par te présenter, du coup, aux auditeurs, à tes auditeurs peut-être, et puis à mes auditeurs qui ne te connaissent pas forcément.
Avec plaisir. Alors, je suis Claire, j'ai 34 ans, je vis à Toulouse depuis bientôt 2 ans. Avant, j'habitais à Perpignan, comme on a pu l'évoquer, et je suis créatrice de contenu et podcasteuse indépendante. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais, ça me nourrit beaucoup et j'ai aussi, je suis une grande passionnée, j'ai d'autres passions à côté de mon travail et qui m'animent beaucoup. Et voilà, je suis une grande amoureuse du Sud, je pourrais pas vivre ailleurs, c'est vraiment le soleil et la douceur de vivre qu'il y a ici sont vraiment indispensables à mon bien-être, donc je suis à ma place. Donc écoute, j'ai hâte aussi que tu te présentes et d'en savoir un petit peu plus sur toi.
Et avec plaisir, écoute, moi je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, donc je suis maman de 2 enfants, un petit Gaspard qui a 6 semaines, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro, je suis parisienne d'origine et expatriée pour la 3e fois. En ce moment, je vis à Dubaï. Je me qualifierais aussi comme audacieuse pour utiliser un adjectif. Et dans le domaine pro, alors c'est ceux qui me connaissent savent que c'est pas forcément un exercice facile de me présenter parce que je fais beaucoup de choses, j'ai un profil slasher, mais on va dire que je suis toujours dans le même domaine, dans la communication digitale, et j'ai une mission qui m'anime, c'est transmettre, c'est raconter des histoires autour de marques, de personnalités, de projets. Concrètement, ça s'articule en plusieurs activités, plusieurs médias. Donc voilà, je fais de la production de contenu écrit, donc pour mes clients. Je fais de la production de contenu audio également pour mes clients et pour mes propres projets, dont mon podcast qui s'appelle L'Aléa. Et j'ai aussi une casquette de créatrice de contenu, mais là, on va dire plus influence, donc comme toi, via des collabs sur mon site web et sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'ai essayé d'être succincte.
Écoute, c'est une très belle présentation. Tu vois, j'ai été beaucoup moins, j'ai moins développé que toi, mais finalement, je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on a finalement à peu près la même activité ouais. et la même passion qui nous anime, celle de transmettre, de raconter des histoires. Donc c'est vraiment chouette et on a beaucoup, je pense, à partager toutes les deux.
C'est clair.
En tout cas, merci. Une très jolie présentation. Qu'est-ce qui t'a amené justement à créer ton émission de podcast ?
Alors, moi, mon podcast, alors déjà depuis toute petite, moi, j'écris des histoires j'écris des livres, j'imagine des choses, et depuis toute petite aussi, je suis passionnée par l'interview, par l'exercice de l'interview. J'ai toujours aimé poser des questions, écouter des parcours de vie, m'inspirer des autres pour moi, ma propre évolution. Et donc, j'ai commencé à rapidement, donc voilà, je me suis dirigée vers une école de commerce. Après, j'ai fait beaucoup de stages dans la communication et j'ai eu l'occasion de faire énormément d'interviews. Donc, par exemple, j'ai travaillé chez Melty, chez AB Productions. J'ai interviewé pas mal d'artistes pour ces médias, donc de Dorothée à Bernard Montiel jusqu'à Mathieu Chédid, jusqu'à Phoenix également. Donc voilà, beaucoup 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 d'artistes durant mon parcours, durant mes stages, et avec aussi une forte envie de voilà, je me suis toujours un peu intéressée aux médias et aux médias radio également, à la télé aussi. Et donc comment ça s'est passé, c'est que il se trouve que quand j'étais en congé mat, j'étais complètement chaos. J'étais alitée et même d'écrire, j'avais plus trop la force. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir en fait le média podcast et à me passionner pour le podcast Bliss Stories, qui est un podcast maternité pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, je me suis complètement, j'adorais ce format, j'adorais ce format d'interview, ce format long où on rentre en profondeur dans cette société où on est un peu voilà, la consommation de contenu court. Et donc dès que ma fille en fait est née, je me suis dit OK, j'ai vraiment envie de créer mon émission de podcast. Au départ, il y a plusieurs thème auquel je réfléchissais, mais finalement il y en a un qui m'a toujours animée, c'est que j'étais toujours passionnée par les personnes j'ai toujours très intriguée par les personnes qui prenaient des risques, par les personnes audacieuses. J'avais envie d'analyser finalement leur parcours, leur secret de réussite. Et donc en fait finalement ça s'est imposé comme ça. J'ai créé ce podcast Lalia, qui au départ en fait était sur la prise de risque très extrême, avec des sportifs de haut niveau, avec des aventuriers, et puis finalement peu à peu qui a bifurqué plus vers un podcast avec des personnes qui étaient moins sur la prise de risque extrême, mais plus sur la finalement plus sur la prise de risque, mais dans tous les sens du terme en fait.
D'accord.
Je raconterai peut-être un petit peu après pourquoi en fait j'ai pris cette direction, mais d'abord j'ai envie de savoir pourquoi toi tu as créé ton émission de podcast.
Alors pourquoi j'ai créé mon émission de podcast ? Alors ça n'a pas été une évidence autant que toi dans la forme, parce que moi les podcasts j'en ai écouté relativement tard. Ils sont entrés dans ma vie, il y a 2 ans je dirais. Et en fait j'ai eu une dernière expérience professionnelle qui m'a déplu, mais ça on y reviendra, ça a été un peu le déclic justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en fait je travaillais avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi, qui, elles, consommaient énormément le format podcast et m'ont dit... j'ai jamais écouté la radio ni rien, je suis une grande lectrice, mais tout ce qui est émission de radio, vidéo, c'est un peu moins mon dada. Et elles m'ont dit, mais non, mais il y a toi qui es passionnée par beaucoup de choses, il y a moyen d'apprendre énormément, tu t'entends l'histoire de parcours de personnes qui sont très inspirantes. Et donc, j'ai commencé à m'y mettre comme ça. Le confinement est arrivé. Moi, j'ai toujours, comme je te disais, adoré écrire. Donc, je le fais via la création de contenu sur Instagram. C'est vraiment quelque chose c'est une des choses qui m'anime le plus, de raconter justement une histoire autour de la marque et du produit que je présente. Donc, j'ai vraiment plus une approche journalistique de la création de contenu. Et je pense que tu as un peu la même,
oui.
D'ailleurs. Mais c'est vraiment le à force de rencontres vis-à-vis des collaborations, donc avec des jeunes marques engagées, souvent dirigées par des femmes, que j'ai vraiment eu développé cette passion-là. Et pareil, j'étais vraiment fascinée par cette prise de risque, par ce ce côté très passionné, engagé qu'elle véhiculait. Et je me suis dit, ok, c'est bien ces collaborations, j'essaie de faire ça du mieux que je peux, mais en même temps, c'est limitant comme support de communication, Instagram. Et je me suis dit, de quelle manière tu pourrais aller plus loin? Et ça a d'abord commencé par ce que je sais faire, donc des portraits écrits. Donc j'ai créé un site ou un blog, comme on veut, où j'ai rédigé ces interviews écrites. Et malheureusement, tout le monde ne lit pas comme je lis, et encore moins sur écran. Et c'est vrai que finalement, même moi, je lis davantage sur papier que sur écran. Donc finalement, je me suis dit, à un moment donné, je me suis remise en question. Tu demandes à des gens de ralentir pour lire. Mais malheureusement, ça fait pas partie des habitudes de tout le monde. Donc essaie de t'adapter au plus grand nombre. Et effectivement, on a commencé à me souffler l'idée de créer une émission de podcast, sauf que l'audio, c'est vraiment quelque chose qui est inconnu pour moi. Et qui dans un sens me faisait très peur, parce qu'on a peur de ce qu'on connaît pas.
Ouais.
Et donc j'ai mis un petit moment quand même à me lancer, et voilà, j'ai été encouragée par la personne qui partage ma vie, parce que lui voilà, a déjà fait du montage vidéo, donc c'est sensiblement la même chose, et il m'a dit mais ne t'inquiète pas, à tous les deux on va y arriver.
Génial donc, voilà, d'avoir quelqu'un comme à côté de toi comme ça pour te soutenir.
Oui, ouais, il est formidable pour ça.
Bah moi, c'est vraiment... mon mec aussi qui a fait mes premiers montages d'épisodes.
Ah,
fait.
Toi aussi.
Ouais. Il y avait tellement déjà de choses à penser et à faire en faisant un podcast que au départ le montage me faisait super peur, et donc il a d'ailleurs mon premier montage, il a duré 20 heures et c'est lui qui l'a fait. Tous les deux, on était devant l'écran.
Mais c'est ça.
C'est génial d'avoir quelqu'un comme ça qui te soutient dans son projet, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et c'est donc exactement comme ça que ça s'est passé. Donc là, le podcast a un an. Et ça doit faire, écoute, je sais pas moi, 4-5 mois que je les monte moi-même.
Ouais.
Et c'est rigolo parce que c'est parti d'un petit conflit, parce que lui aussi a sa société, donc il a beaucoup de travail, on a chacun beaucoup de travail. Et voilà, je lui ai rajouté de la charge, et donc je voyais que voilà, c'était un peu devenu compliqué à gérer pour lui, et du coup je me suis lancée, et finalement même si ça prend beaucoup de temps, parce que ça continue de prendre du temps selon,
bien sûr,
tu le
ouais.
sais, en fonction des profils, il y a des personnes qui demandent moins de travail, c'est absolument pas péjoratif, hein, mais qui demandent moins de travail de montage que d'autres. Mais bon, en tout cas, je suis fière de pouvoir faire de A à Z, de mener cette émission de A à Z. Et voilà, donc du coup, c'est parti de cette motivation-là. Après, pour ce qui est de la raison pour laquelle je l'ai créé, outre le fait de vouloir raconter une histoire, c'est que justement, ces rencontres avec ces femmes, donc comme je te dis, généraient beaucoup d'admiration chez moi pour elles. Et je crois qu'en fait, au fond de moi, j'avais aussi envie de me lancer en tant qu'entrepreneur, puisque je ne l'étais pas à ce moment-là. Et elle m'insufflait le courage et la légitimité dont j'avais besoin. À chaque fois que j'ai écouté justement leur parcours, que ce soit via un podcast ou parce que j'échange avec les marques avec lesquelles je collabore, je trouvais ça formidable, et ça me donnait vraiment cette énergie, ça me nourrissait.
Oui.
Et à un moment donné, j'ai voulu le transmettre. Mmh. Et voilà, c'est vraiment parti de là, et aussi par sororité, parce que j'aime beaucoup cette idée de se soutenir entre femmes, pas dans un mouvement contre les hommes, parce que c'est absolument pas, j'ai aucune animosité contre les hommes, vraiment pas de souci, pas comme ça que je vois ni la sororité ni le féminisme, mais parce que je sais qu'on a une manière de penser et d'être qui est différente, donc d'entreprendre qui est différente de celle des hommes, et j'avais vraiment envie de le valoriser, parce que on a quand même été j'ai pas le terme, pas amenuiser, tu vois, mais
oui.
On a dû quand même se faire un peu petite pendant très longtemps, et je trouve que c'est chouette de pouvoir mettre en lumière voilà, toutes ces femmes courageuses qui se lancent.
Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pas pris ce parti pris pour le coup. En fait, je me suis aperçue, et c'est pour ça que j'ai bifurqué après, que en fait derrière chaque en fait prise de risque extrême, il y avait des besoins en fait, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de dépasser ses limites, de se confronter
bien
à soi-même, de se connaître parfaitement. J'ai aussi énormément appris en fait des hommes et de leur fragilité et de leur part féminine, et je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se posaient autant de questions, voire plus, et que les femmes également. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée. Mais je comprends tout à fait aussi ce choix d'aller sur les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui mettent en valeur très bien, comme tu le fais, les femmes. Et je trouve ça génial. Toi, pour le thème de ton podcast, comment ça se passe? Pour chaque interview, c'est comment tu les conçois, en fait? Comment ça se passe?
Alors, l'idée, c'est vraiment d'aborder et l'entrepreneuriat et en fait la personne que je vais choisir aura une activité dont le sujet amène à une manière de repenser en fait le monde, notre façon de consommer. L'idée c'est vraiment d'éveiller les consciences de par leur activité. C'est je dis toujours qui sème le beau, parce que pour moi voilà, elles font des activités qui vont contribuer à un mieux-être, à un mieux faire et à un meilleur demain. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et qui finalement le fil conducteur de ma création de contenu sur Instagram et tout simplement de ma façon de vivre. Voilà. Et toi?
Aujourd'hui, j'ai à cœur, donc, du coup, d'interviewer, que ce soit, des sportifs de haut niveau, des coachs en développement personnel, des écrivains, par exemple, à succès, comme Raphaël Giordano, pour, finalement, donner des clés aux auditeurs pour parvenir, en fait, à l'alignement, à la connaissance d'eux-mêmes et derrière à maximiser en fait le potentiel de leur vie, parce que je pense que sans la connaissance de soi on peut pas parvenir à l'alignement et à la maximisation du potentiel de nos vies, tout simplement. Mais c'est finalement cette prise de risque extrême qui a amené ce cheminement vers cet alignement, puisque derrière en fait chaque prise de risque extrême, il y avait vraiment ce recueil avec soi-même, et c'est pour ça en fait que j'ai effectué cette bifurcation.
Oui, j'allais te demander d'ailleurs, cette bifurcation, tu l'as fait naturellement ou est-ce que tu l'as précisé dans une intro ou
il m'est arrivé de faire plusieurs épisodes un peu où je me confiais, de coulisses du podcast, mais qui étaient des capsules solo que je faisais sur 5-10 minutes. Et j'ai pu l'évoquer, je l'ai annoncé également sur Instagram en expliquant vraiment mon cheminement vers cette nouvelle direction. Et puis finalement, je pense qu'il y a... Au départ, en fait, ce qui se passait, je pense que c'est ce que font beaucoup de podcasteurs, c'est que on se dit, on le voit aussi comme un média avec vraiment une charte éditoriale précise, avec un axe précis, une temporalité précise. Enfin, on se met beaucoup de barrières et de règles, et finalement, on peut tout simplement, le faire évoluer en fonction de nous, en fait, notre façon de penser à ce moment-là, notre vie, notre situation. Et aujourd'hui, en fait, mon podcast, c'est un peu le reflet de moi-même, c'est un peu un journal intime qui évolue en fait à travers moi, mes problématiques, et chaque épisode vient répondre à une problématique sans qu'il y ait vraiment de c'est pas forcément dans une même seule et même direction. Je sais pas si c'est très clair.
Mais c'est vrai ce que tu dis, et de toute manière, finalement, ça reste de la création de contenu et c'est valable pour tout ce qu'on fait.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est cette idée de ne pas trop mettre de barrières. Je l'ai rencontrée aussi au début. Et effectivement, c'est ton espace. On a encore cette liberté-là de pouvoir le faire évoluer comme on le souhaite.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, de toute manière, ça ne peut que bien être accueilli, puisque ça nous fait vibrer encore plus. Donc, ça se transmet, cette passion-là. Et toi, tes premières expériences justement d'interview, ça s'est bien passé? Tu en gardes un souvenir comment? Explique-moi.
Alors, moi, ma première interview, c'était avec Kelly Bessis, qui en fait a connu une rupture juste avant son mariage. Et la particularité de cette femme, c'est qu'elle a un pacemaker en fait dans le cœur, et elle s'est lancée en fait à cœur et à corps perdu dans la boxe avec un pacemaker. Donc voilà, c'était un parcours que je trouvais assez intéressant, et c'était ma toute première interview. Souviens, j'en garde un souvenir un
sacré
peu.
Sacré profil.
Ouais, j'étais un peu stressée, forcément, même beaucoup stressée. Pour cette première interview, voilà, j'avais acheté mon matériel quelques semaines avant. J'avais trouvé sur YouTube des tutos, des vidéos, quel matériel pour commencer dans le podcasting, pour commencer dans le son. Donc, il y avait déjà quelques podcasteurs quand j'ai commencé. Moi, c'était fin 2019. Donc, on entendait parler de Pauline Léniaud, on entendait parler de Grégory Pouy qui avait le podcast Vlan, qui était un podcast de marketing d'ailleurs à la base. Donc, lui aussi avait énormément évolué son média. Et voilà, et je suis partie acheter mon matériel. Et ensuite, j'ai rencontré cette nana qui était super, super chouette. Mais au moment de mettre en ligne... Alors, c'est pas le premier épisode que j'ai mis en ligne. J'en ai mis un autre avant. C'était celui de Corentin Follen, qui est photoreporter de guerre, avant. Mais au moment de mettre en ligne mon premier épisode, j'avais vraiment l'impression d'accoucher, quoi. C'était vraiment un truc qui venait du cœur, voilà, qui était... Ouais, j'étais un peu stressée, quoi. En même temps, j'avais envie qu'on l'écoute et en même temps, j'avais peur qu'on l'écoute. Enfin, c'était un peu... un peu bizarre,
ouais,
mais j'avais vraiment ce sentiment de ok, c'est mon projet, enfin c'était alors que j'avais créé plusieurs blogs et tout, mais j'avais un sentiment différent, quoi, un sentiment de ouais d'un peu de lancer un message au monde et c'était un moment que j'en garde un bon souvenir, ouais. Mais un peu stressant aussi. Toi, comment ça s'est passé tes premières expériences de podcast,
écoute, je crois que le mot qui est le plus représentatif, c'est stressant aussi.
Ouais.
Surtout que je l'ai enregistré écoutant présentiel.
Ouais.
Ce qui quand même représente une infime partie de mes épisodes, parce que je me limite surtout pas géographiquement, donc vraiment la quasi-totalité sont enregistrés à distance. Et là, c'est vrai que c'était le premier. Elle est venue donc chez moi, une femme formidable qui a lancé une marque. Je sais pas si tu la connais. C'est la marque Adorna qui
fait
des tote
bags. Ah si, je connais.
Bags,
ouais, bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Et donc pareil, vraiment, ils sont très bien fabriqués. Elle est très engagée. Et donc elle m'a raconté son histoire entrepreneuriale et la maternité, puisque tout est parti de là, vu qu'elle s'adresse essentiellement à des jeunes mamans. Et voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Elle était, en plus, c'est vraiment rigolo parce que parfois les choses sont bien faites. Johanna, donc la créatrice d'Adorna, est quelqu'un qui est très... voilà, ses idées sont bien organisées. Tu vois, elle ne s'est pas perdue. Vraiment, elle répondait très clairement aux réponses, enfin aux questions... donc vraiment, elle m'a facilité ce premier exercice-là j'en ai tiré une très très belle première expérience. Mais c'est vrai que j'étais intérieurement très stressée et je trouve, je sais pas toi, mais que les premières fois, on se concentre beaucoup sur sa prestation, donc on écoute un peu moins l'autre finalement.
Oui, complètement, ouais.
et ça, c'était difficile parce que tu essaies de tout gérer, quoi. Tu te dis, mais attends, mais j'avais l'impression de ne pas avoir écouté sa réponse. Et ça, c'était pas évident. Et alors, quand tu lâches après, c'est génial parce que ça devient vraiment une conversation.
Mais moi, c'est...
Et c'est là où tu te lâches, vraiment.
Exactement. Et moi, je sais pas comment tu conçois tes interviews, mais moi, c'est complètement ce qui m'a fait changer, en fait, de façon de faire. C'est qu'en fait, pour mes premières interviews, donc pareil, moi, Kelly Bessy, c'était en live et toutes mes premières interviews, en fait, c'était en live jusqu'à ce que je m'expatrie aux Émirats. Et d'ailleurs, si j'étais en France, je ferais toutes mes interviews. J'essaierais de faire toutes mes interviews en live parce que je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans le regard qui se passe pas forcément quand on est à distance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu le fil. Je suis fatiguée. Je dors 3 heures par nuit.
Il y a aucun souci.
Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, et c'est ce qui a changé ma manière de concevoir mes interviews parce qu'au début, en fait, moi, j'écrivais toutes mes questions les unes à la suite des autres et donc du coup, je me concentrais sur mes questions et je perdais un peu. C'est cette spontanéité de la conversation et donc du coup aujourd'hui je ne fais plus du tout de questions quand je fais mes interviews.
Ah oui.
En fait, ouais, j'écris des thèmes, en fait. Alors je passe une matinée à me renseigner sur la personne, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux écouter, tout ce que je peux regarder, je le fais, et après j'écris des thèmes. J'écris par exemple thème enfance, après thème entrepreneuriat avec des questions, tu vois, des 10 questions dedans, mais qui sont même pas des questions, qui sont des points en fait que je veux aborder ou que je peux aborder, et après après, je viens piocher, en fait, dans ces petits thèmes, petites sous-parties, petites questions, en fonction de ce que va me dire la personne. Et je fais plus du D'accord. tout des questions en mode « quel va être ton enfant ?»« Quelle a été ton enfance ?»« Quelle a été cette expérience ?» et tout ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop sur mes questions et que on perdait en fluidité et en échange. Et que finalement, derrière, je me rendais compte que j'avais pas du tout écouté la personne et que je redécouvrais au montage ce qu'elle m'avait dit. Donc toi, je sais pas comment tu conçois justement ces épisodes et ces interviews. Est-ce que tu es pareil ou est-ce que tu es dans l'impro total?
Alors non, je suis pas dans l'impro total parce que je crois que c'est tout simplement pas mon fonctionnement. Donc je me rédige toujours des questions qui vont rythmer l'interview.
Ouais.
Et vraiment, je dis à l'autre personne que ces questions-là, elles sont vraiment comme un fil de, j'aime pas, c'est pas le mot conduite,
fil
parce
rouge.
Qu'on va vraiment sortir, ouais, voilà, c'est un fil rouge, mais que, en fait, j'écoute vraiment, du coup, les réponses de l'autre, et de ces réponses-là découlent des questions que je ne m'étais pas notées. Et voilà, on s'interdit rien, mais c'est des questions auxquelles je souhaite vraiment répondre. Du coup, elles restent comme un fil rouge, tu vois. Et je les transmets, du coup, en amont à ma future invitée. Qui les prépare si elle le souhaite. Alors, il m'est arrivé très rarement qu'on me dise bah, « Non, moi, j'ai pas envie de les recevoir. » Mais en général, elles aiment bien les voir avant. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que maintenant, étant à l'aise avec l'exercice, ça me ferme pas du tout de porte, tu vois. Mais ça me rassure et je sais qu'au moins, j'aurai les réponses à ces questions-là. Oui. Et après, tu vois, vraiment, le champ des possibles est ouvert et systématiquement, de toute manière, tu fonctionnes comme ça aussi. Les réponses amènent à d'autres questions.
Bien
et
sûr.
C'est là où c'est hyper intéressant. Quoi.
C'est ça, exactement. Et on ne reste pas canté comme ça sur nos questions.
Et voilà, ça je...
Mais ce qui était un exercice que je faisais dans mes années journalistiques. Moi, juste avant de partir à Dubaï, j'étais animatrice d'événements et sur un after work, en fait, à Paris. Et donc, j'avais interviewé, par exemple, Justine Hutto. Et là, on préparait vraiment les questions et les réponses. Donc, c'était un petit peu une déformation.
Oui, en plus, c'était vrai que c'était ton métier. Moi, c'est pas mon métier. C'est plus une passion que j'ai transformée en métier. Et parce que je crois que, de toute manière, à partir du moment où tu es curieuse et que tu es à l'aise avec les mots et ça ne peut que bien se passer. Mais donc, effectivement, du coup, il faut le temps de s'approprier sa façon de faire.
C'est ça.
Et puis, il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit, c'est que moi, mon podcast, du coup, n'a qu'un an, mais toi, ça fait un peu plus longtemps que ton podcast existe, il me semble.
Oui, moi, je l'ai lancé. Donc, tu vois, j'ai eu l'idée en juillet 2019, quand j'étais à la fin de la grossesse pour ma fille. Et je l'ai lancé, tu vois, ça a fait quand même... Je l'ai lancé en décembre 2019. Tu as le temps que ça se mette en place et tout ça, parce qu'au début, bah, il y avait une peur, en fait. Il y avait une peur de prendre la parole et de m'exprimer à travers ce média. Et puis, de trouver, évidemment, le thème qui m'allait bien, le nom aussi. Ça a été l'objet d'un gros brainstorming avec mon mec, pendant plusieurs soirs. Et ouais, et je l'ai lancé en décembre 2019. Donc aujourd'hui, ça fait, tu vois, deux ans, un peu plus de deux ans et demi. C'est ça? Un peu plus de deux ans et demi.
Ouais, du coup, ça fera trois ans bientôt.
Ouais.
Et oui, et du coup, tu sors un épisode à quelle fréquence?
Alors, au départ, j'étais tous les 15 jours. Puis, à un moment donné, j'ai été toutes les semaines. Et là, bon, là, je suis partie en congé maternité. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Mais à la fin, la dernière année, on va dire que c'était un épisode par semaine. Ouais, un épisode par
D'accord.
semaine.
D'accord, ah oui.
Ouais.
Ok.
Et toi?
Et moi, écoute, j'essaie péniblement par moment de conserver le rythme de tous les 15 jours. Parce que c'est pour le coup pas mon activité principale du tout. Et,
ouais.
Et voilà, la gestion entre les deux activités n'est pas évidente.
Ouais, non, mais c'est ça.
Je veux dire, j'ai l'impression de pas avoir le temps de me retourner, que c'est déjà 15 jours en passé, tu vois, et du coup, c'est un petit peu difficile, mais bon, j'aspire à y arriver, à me tenir à ce rythme-là.
Et d'ailleurs, moi non plus, c'est pas mon activité principale, mais j'essaye, tu vois, quand je suis au rythme d'un épisode par semaine, je me dis, voilà, ça me prend, en tout un jour et demi de travail par semaine. Donc j'essaye de m'y tenir. Mais d'ailleurs, toi, comment tu choisis tes invités et comment tu tiens, enfin, c'est quoi un petit peu ton process, en fait, dans le podcasting?
Alors d'ailleurs, juste avant de t'expliquer ça, ce qui je trouve, tu vas me dire, hein, mais qui est pas évident justement aussi pour tenir le rythme, c'est de synchroniser, tu vois, nos agendas avec les personnes qu'on souhaite interviewer.
Ouais.
Ça parfois ça te recule, tu vois, si t'as pas d'invité d'avance. Je trouve que c'est très difficile de garder le rythme quand la personne n'est pas dispo, quoi.
C'est ça.
Tu peux pas, tu vois.
Bah moi c'est pour ça qu'en général j'ai toujours en fait moi je tiens un tableau. Que je dois à ma copine podcasteuse Frenchie autour du monde, Adèle. Écoutez son podcast si vous l'avez pas encore fait. c'est un podcast pour les interview, voilà, c'est les voyages qui ont du sens.
D'accord.
Et en fait derrière elle tient un tableau avec un tableau Excel tout simple où elle note le nom de la personne, donc le nom des personnes auxquelles elle pense. Donc moi c'est ce que je fais en fait. J'ai un tableau que j'ai remanié à ma sauce où en gros dès que je vois une personne auquel je pense, et ben je le mets dans ma colonne du tableau. En fait, c'est un peu mes inspirations. Après, le thème potentiel auquel je pense avec cette personne. Ensuite, est-ce que cette personne, je l'ai déjà contactée? Donc, en général, moi, je contacte par Instagram ou par mail. Si la personne m'a répondu, je le note. Si la personne m'a pas répondu, je la relance. Ensuite, est-ce que je note si mon interview a été faite ou si elle a pas encore été faite, la date à laquelle elle doit faire. Ensuite, mon visa de communication s'il a été fait. Ensuite, si l'épisode a été mis en ligne. Et en fait, depuis que je tiens ce tableau, ça fait un peu plus d'un an que je tiens ce tableau. Et ben en fait, je trouve que je suis jamais à court.
Mais écoute, je fais c'est drôle parce que j'ai exactement le même outil. Sauf que voilà, je manque un peu de temps pour le tenir parfois à jour. Donc je pense à des personnes, tu vois, je vais les enregistrer sur Instagram où j'ai, tu sais, on peut enregistrer les posts. Donc j'ai un dossier où j'ai marqué, tu vois, que j'ai intitulé prospection, interview. Il faudrait que ces personnes-là, je les prenne et que je les mette dans mon petit tableau. Mais voilà, parfois je manque un peu de temps pour faire ça. Mais j'ai exactement le même outil. Effectivement, ça aide beaucoup. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut que je me dégage peut-être un petit peu plus de temps pour gérer ça. Mais oui, c'est enfin, moi sans ces outils, je pourrais pas fonctionner.
Hein. Bah oui, complètement. Ouais. Bah avant, moi, pendant plus d'un an, j'étais sans outils. Mais bon, c'était ouais, non, c'est sûr que c'est plus galère.
Oui, bah, je suis Madame Tableau après. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a des personnes qui fonctionnent avec d'autres outils, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ils me permettent de garder le fil et d'y voir plus clair.
Ouais, ouais.
Peut-être trop de tableaux, du coup. Si j'arrive pas tous à les gérer, tu vois. Donc voilà, et après, comment je fais pour les choisir c'est ça, c'est de la prospection Instagram par moment. Instagram, je défile et puis je vais tomber sur un profil qui me plaît, pour lequel j'ai un coup de cœur, ou carrément parfois des collaborations où vraiment j'ai eu pareil un crush pour la fondatrice et tu vois, ça va se faire comme ça. Mais c'est vraiment voilà, du moment qu'elle réponde quand même à ce fil rouge, cette motivation du podcast de partager des femmes qui se sont lancées dans un business qui permet de rendre demain meilleur. Voilà, c'est vraiment ce qui compte pour moi.
D'accord, donc essentiellement par tes collabs et par Instagram.
Exactement, ouais.
Bah, c'est sûr
ou des conversations parfois, bon tu sais, quand on rencontre quelqu'un, mais...
Ouais.
Et toi ?
Et moi, bah écoute, Instagram aussi pas mal, des lectures aussi, tu vois, je lis Le Point par exemple assez régulièrement. Donc dans la rubrique culture ou dans la rubrique sport, il peut m'arriver voilà d'avoir envie d'interviewer une personne dont je lis le profil ou l'article. Et puis de plus en plus c'est ce que tu dois connaître de toute façon avec ton métier, je suis contactée par des agences de presse, des attachés
de
presse,
je l'ai même pas
dit, d'édition.
Vraiment.
Là, en ce moment, je reçois pas mal de mails par semaine. Donc,
mais moi aussi, je crois que c'est devenu petit à petit, ça devient un vrai média.
Pas mal, ouais. Ça fait déjà 6 mois, tu vois, que je suis de plus en plus contactée. Et là, ça s'est accéléré, c'est vrai, ces dernières semaines, quoi, ces derniers mois. Où ça devient vraiment un moyen, un média, en fait, comme un autre.
Oui.
Donc,
et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que l'approche, elle est différente et que ça remet quand même en question ce côté, l'aspect financier dont on parlera peut-être.
Ah bah oui, complètement.
Parce que c'est quand même, voilà, c'est les agences presse voilà, nous contactent, c'est que c'est bien que ça prend une bien tournure professionnalisante comme Instagram. Et
Ouais, on peut totalement parler avec en toute transparence de ça, de notre manière de fonctionner à toutes les deux.
Donc je t'ai coupé du coup, excuse-moi, mais
ouais, non, mais je te disais, voilà,
je crois presque terminé. Ouais,
ouais, c'était ouais, Instagram, ouais. C'était moi le point voilà. Personnellement parce que je lis beaucoup ce magazine. Et puis les agences de presse, pas mal, où je vais piocher. Je prends pas forcément tous les profils, hein, loin de là. Et puis aussi,
moi aussi très peu.
Voilà, c'est les agences de presse. Et puis également les. En ce moment, je reçois pas mal de newsletters de maisons d'édition. Donc derrière des auteurs, c'est comme ça que j'avais interviewé Raphaël Giordano. Je vais sûrement avoir okay. Laetitia Milo aussi sur le podcast parce que en fait derrière elle a écrit un livre et c'est la maison d'édition qui me suggère ce profil. Donc c'est comme ça que ça se fait essentiellement. Et puis ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare que des auditeurs me suggèrent des profils ou que des personnes souhaitent que je les interviewe, viennent me proposer. Poser leur propre profil.
Moi, ça m'arrive de plus en
ouais,
plus.
En général, moi, je donne pas ouais. forcément suite parce que j'ai bien en tête les profils que je veux, mais je peux avoir oui. un coup de cœur pour une histoire. Toi aussi, ouais, ouais. ça t'arrive de...
Oui. Oui, oui, ouais, cette démarche-là et effectivement, ouais, c'est soit par mail, soit sur Instagram, mais c'est vrai que ça arrive, ouais, parce que je prends vraiment le temps à chaque fois d'appeler la personne que je vais peut-être interviewer. Puisque parfois ça peut ne pas matcher, je m'aperçois que voilà, finalement je vois pas comment je vais pouvoir développer ça et l'angle voilà, finalement il y a pas ce que je recherche.
Ah, ça t'est déjà arrivé en fait d'avoir une conversation,
ça m'est déjà arrivé,
et puis
ouais.
finalement de dire finalement non. Merci, au revoir.
Ouais, ça arrive.
Ouais,
c'est
d'accord.
rare mais ça arrive où vraiment mais finalement je m'aperçois que pas que l'histoire son histoire n'est pas intéressante, mais que je peux pas prendre le tu vois la route que je voulais prendre avec elle, voilà. Et c'est mais heureusement c'est très rare.
Ouais.
donc voilà, mais après cet appel là je rédige les questions que je vais lui envoyer et elle s'en imprègne et après on fixe, voilà, si les questions lui conviennent on fixe un créneau pour enregistrer ensemble. Je monte et voilà, j'aimerais te dire que je fais tout d'un coup une fois que ça a lieu, mais non. Donc ça prend un petit peu plus de temps.
Ouais.
Mais ouais, donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de te répondre vraiment véritablement combien de temps je mets, parce que je fais pas forcément les choses dans
D'accord.
la foulée tout de
ouais,
suite.
Ouais.
Mais oui, si on met en bout tout pour tout, 3 semaines, tu vois, je dirais à peu près.
D'accord. Ok. T'as déjà eu des expériences de refus ou des choses qui ont pu te...
Ouais, me peut-être me mettre...
Te fragiliser, on va
dans
dire,
l'inconfort,
dans ta situation
ouais.
podcasteuse.
Oui, écoute, j'ai eu voilà, peut-être des profils sur le moment avec lesquels peut-être ça a été plus difficile pour moi. Je sais pas comment dire. Tu vois, qui n'était pas forcément en phase avec vraiment mes valeurs de bout en bout. Mais pour autant, j'ai à chaque fois trouvé ça très constructif. Et c'est sur le coup, en fait, que ça peut me déstabiliser. Et où je me dis, mince, ça va peut-être pas correspondre, ça va peut-être pas... Enfin, les gens vont se dire que ça dénote avec les autres invités. Et finalement, en fait, tous les profils sont intéressants, tous les parcours sont intéressants, même quand ils sont pas totalement en phase avec toi, tes valeurs. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne la vie de toute manière. Tout est bon à, tous les échanges sont bons à prendre et tout est enrichissant. Il y a toujours des choses très positives à en ressortir. Donc voilà, c'est plus déstabilisant finalement pour moi. On parlait de barrières qu'on se met. Et ça n'est peut-être un bel exemple, tu vois, des déblocages qu'on peut faire parfois sur des choses qui finalement ne sont pas n'ont pas lieu d'être.
Ouais.
Et toi ?
Ce qui a pu me déstabiliser, ça a été peut-être des refus que j'ai eus. Alors j'en ai pas eu beaucoup, hein, des refus sur le podcast. Quand je suis par exemple à Paris, il m'arrive de proposer, de ne pas avoir de limite dans les personnes auxquelles je vais proposer. Après, quand je suis à distance, j'ose un peu moins parce qu'à distance, ça peut toujours être un peu plus chaotique et j'ai pas envie de me décrédibiliser. Il peut y avoir quand même des couacs techniques. Mais donc, j'ai proposé en fait à Cédric Clapiche qui au départ m'a dit oui et donc j'étais super contente et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je voyais qu'il me répondait de moins en moins, mais moi je le relançais et il a fini par me dire je ne le ferai pas. Point. Voilà, sans autres oui. explications. Et ça a pu me déstabiliser parce que je me suis remise en question. Je me suis dit ok, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'ai approché d'une manière qui n'est pas convenue? Parce que au départ il m'avait dit oui. Finalement, il m'a dit voilà qu'il avait un tournage à ce moment-là qui s'était calé et voilà. Donc ça, j'étais hyper dégoûtée. Pareil, une fois, j'ai un homme politique qui au départ m'a répondu en fait, qui était assez qui ça aurait pu se faire et puis finalement au dernier moment qui m'a dit non. Mais bon, sinon non, après dans les interviews que j'ai faites, il y a des choses qui m'ont remué mais pas forcément plus.
Oui. Ouais, parfois c'est pas mal d'émotions et
oui.
Ouais. Ça c'est vraiment aussi quelque chose. Et pour ce qui est des personnes que tu interviews, elles jouent toujours le jeu de partager après les épisodes.
Alors ça c'est un vrai. Ça c'est un vrai.
Je savais pas si j'allais l'aborder celle-là.
Ça c'est un vrai truc dans le podcasting.
Ouais.
Je me suis sentie mal à plusieurs reprises de devoir relancer la personne en essayant d'être le plus aimable possible. Est-ce que vous allez partager? Donc maintenant, ouais. J'essaye de le tourner en fait dans mon mail de départ. Hein, voilà, où je leur dis qu'est-ce que ça pourrait leur apporter en fait de partager. Donc souvent, c'est à votre communauté ou à votre audience de vous découvrir sous un autre angle sur des sujets que vous n'avez pas forcément abordés. Ce qui peut être enrichissant aussi du coup pour vous en fait, en essayant de jouer de la casquette et de oui. Ok, là vous vous dévoilez d'une autre manière dans laquelle vous n'êtes pas forcément dévoilé auparavant et ce qui peut pousser un peu la personne à partager, du coup elle se dit ok, c'est vrai Mais sinon après oui, il m'est arrivé de relancer et d'avoir aucun retour derrière, aucun repartage derrière, donc c'est très contrariant dans notre boulot de podcasteur parce que pour le boulot que ça demande derrière de pas avoir de repartage, mais d'un autre côté c'est le jeu, ils n'ont rien signé, enfin ils ne sont engagés à rien. Donc toi comment ça se passe vis-à-vis de ça?
Écoute, de la même manière que toi, sauf que c'est vrai que je relance pas.
Ah ouais,
d'accord. Je relance pas parce que je crois que j'ai pas encore. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, pour tout avouer. Du coup, je me dis qu'à partir du moment où la personne dit oui, c'est qu'elle y trouve quand même un intérêt.
Ouais.
Donc c'est dommage, je trouve, et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est beaucoup de travail pour toi et bon, de pas avoir ça en retour, je crois que je cherche pas du coup forcément à relancer la personne, mais effectivement quand l'épisode est prêt, tu vois, j'envoie toujours un mail de récap avec le visuel de l'épisode, avec justement l'intro de l'épisode, que tu sais, celui qui sert également à partager sur les réseaux sociaux,
ouais.
À raconter introduire l'épisode. Et voilà, et dans ce mail-là, je dis n'hésite pas à partager autour de toi, la personne qui gère ta communication s'il y a. Et voilà, et c'est vrai qu'après, si elle fait pas, ben je vais pas relancer parce que vu que je comprends pas le fait de ne pas partager sa propre histoire, tu vois, je vais pas chercher des arguments pour convaincre l'autre. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire, tu vois, mais pour le moment, je crois que comme ça fait qu'un an, j'ai un peu du mal à me concentrer là-dessus, mais...
Ça t'est arrivé fréquemment qu'on repartage pas derrière? Pas
peu énormément. Peu de fois, mais c'est à chaque fois, c'est vrai que ça m'affecte un peu.
Oui, non, ça c'est sûr que c'est...
Ouais.
Oui, tu te demandes... tu te remets en question, en fait, tout simplement. Tu te remets en question sur ce que t'as fait de mal, quoi.
Oui, parce que tu as l'impression que c'est une sorte de revirement, parce qu'au début... voilà, il y a un engouement et puis après, je saurais pas dire, mais c'est vrai que c'est toujours un peu, c'est une incompréhension
Je sais pas si t'as d'autres points que t'as envie d'aborder, on peut peut-être parler du financement, en fait, dans le podcast.
Oui,
tout à fait. C'est un sujet qui intéresse. Le financement, toi, aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie avec ton podcast?
Alors, pas du tout. Je ne génère aucun revenu avec le podcast. Tu sais, je crois que c'est un peu comme c'est la manière dont je mène les projets, comme ça a pu être pour la création de contenu au début, c'est que je mets beaucoup de temps à me sentir légitime dans ce que je fais. Et du coup, tu vois, imaginer que je vais essayer de générer des revenus avec quelque chose que je commence à peine, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi et que j'ai totalement réglé avec la création de contenu depuis longtemps, parce que forcément, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années.
Tu t'es rémunérée au bout de combien de temps avec ta création de contenu création de contenu, tu parles de ta création de contenu sur Instagram?
Oui.
Ouais.
Alors, véritablement, je suis sur Instagram depuis 2012.
D'accord.
Les premières collaborations, ça a été de la dotation, tu sais, comme tout le monde, il y a... quand ça a commencé à prendre, je dirais vers 2014 par là, et je dirais que je génère des revenus depuis ça doit faire 5 ans. Mais c'était complémentaire parce que j'ai toujours été salariée, donc c'était vraiment un petit plus et je cherchais pas forcément à le développer davantage. Que j'ai décidé d'en vivre, ça ne fait qu'un an et demi.
Ah d'accord, seulement, je pensais beaucoup plus.
Oui.
Ok.
Non, pas du tout, parce que c'est vraiment pareil. J'ai dû, on en reparlera, mais j'ai dû faire un auto-coaching là-dessus pour me dire, oui, c'est ta passion et tu fais rien en calculant, en réfléchissant de manière stratégique. Mais comment transformer ça en fait en dire oui, ma passion est aussi mon travail et et je dois percevoir des revenus pour ce que je fais. Et ça a été assez long. Je le dis pour le podcast.
Non, mais on va en reparler parce que c'est super intéressant ce sujet-là de juste.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouais, de pas se sentir peut-être légitime de pouvoir vivre de sa passion, ou de pas réaliser c'est que ta passion peut être complètement ton travail et c'est ok.
Oui.
Et qu'on n'est pas obligé de souffrir en fait en travaillant. Et ça, moi aussi, je l'ai réalisé aussi, je pense très tard, tu vois, de se dire ok, en fait, tu peux t'éclater au boulot et c'est cool quoi. Et te créer ton
exactement.
Boulot. Et d'ailleurs, t'as jamais pensé à faire des packages avec justement de la création de contenu et un pré-roll sur le podcast?
Si, justement, c'est quelque chose que j'ai commencé à envisager, ouais. Il faut que je le propose parce que vraiment, je trouve que c'est un format hyper intéressant. Mais carrément, ouais, c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en place. Tu le proposes déjà, toi?
Moi je vais te dire en fait, mais moi je comprends tout à fait ta peur entre guillemets de gagner de l'argent sur le podcast. Moi c'est pareil, et d'ailleurs pour te dire, j'en parle pas trop, mais moi aujourd'hui j'ai deux podcasts, donc j'ai la Léa et j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï. J'ai eu beaucoup de propositions de rémunération sur le podcast et j'ai jamais réussi à passer le pas. Va savoir pourquoi. Par manque, par peut-être peur de gagner de l'argent sur ce podcast. Il faudrait vraiment que je fasse une thérapie pour le comprendre. Mais sur le podcast La Léa, je me suis rémunérée au bout de, ça fait un an que je me rémunère vraiment sur ce podcast. Donc je me rémunère de trois façons différentes, même de quatre façons différentes. Donc c'est ce fameux pré-roll, mid-roll, post-roll avec des partenaires qui m'achètent en fait... mon tarif, c'est 75€ les 1000 écoutes. Donc, ils m'achètent, par exemple, 10 000 écoutes, 15 000 écoutes, 20 000 écoutes. Ça dépend des mois. Donc, soit c'est moi qui vais démarcher directement les marques, soit de plus en plus, c'est les marques qui viennent me démarcher. Et ça s'est vraiment accéléré depuis mon passage. J'étais chez Ocha avant. Maintenant, je suis chez Acast. Et Acast, ils ont une régie publicitaire, en fait, qui s'occupe de trouver des sponsors pour leur podcast. J'ai aussi... on parlait tout à l'heure des agences de presse qui viennent nous démarcher de plus en plus pour nous proposer des profils. Moi, j'étais pas très à l'aise. Enfin, je suis pas très à l'aise en fait avec ce mode de fonctionnement parce que il y a beaucoup d'agences de presse qui viennent me voir et qui me disent OK, je pense que ça peut être bien. pour vous d'avoir ce profil, mais derrière, j'ai l'impression d'être un peu bernée et n'avoir rien à y gagner. Je parle vraiment très franchement, en fait.
Oui, mais après, c'est un peu ça. Et puis, les agences presse sont rémunérées pour développer la communication de leurs clientes. Donc, je vois pas pourquoi.
Exactement.
Tu vois.
Aujourd'hui, si j'accepte le profil, parce que bien sûr,
et oui, les personnes, en fait,
si j'accepte le profil parce qu'il correspond à ma ligne éditoriale, parce qu'il correspond à mon message, je me permets de proposer un mode, voilà, de rémunération. Parce que moi, je pense que si j'accepte en fait la personne que j'interviewe, c'est que j'aime son message, elle a des choses à dire et que je suis en authenticité et en transparence.
Ben, bien sûr. Et finalement, c'est comme les collaborations Instagram. Il n'y a rien que j'accepte qui ne me correspond pas. Donc, c'est exactement la même chose.
C'est exactement le même principe, en fait.
Oui.
Mais c'est exactement ça, en fait. Derrière, on sait très bien qu'il faut gagner notre vie et que une collaboration Instagram, tu partages le produit, mais avec ton cœur, en fait. Et ça ne veut pas dire derrière.
Ah oui. Moi, rémunérer, non rémunérer, c'est exactement la même chose. Ou même, ne serait-ce que quand je partage les choses, rien que pour ma communauté, quoi. Ça ne change rien. C'est juste que, bien sûr, je passerai plus de temps sur cette création de contenu-là, mais le message reste le même, l'authenticité et la transparence reste la même, quoi.
C'est
donc,
ça, exactement.
C'est très lié, finalement.
Exactement, c'est très lié. Mais bon, il y a certaines agences, voilà, qui n'arrivent pas trop à sauter le pas. Mais c'est presque plus de temps de faire du podcast que finalement, je sais pas. Arrête-moi si je me trompe. Peut-être que je dis une grosse bêtise.
Ouais, ça dépend vraiment les thématiques.
Ça dépend.
Mais j'ai vraiment des collaborations qui me prennent presque plus de temps que le podcast. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça dépend, je pense. Mais en tout cas, c'est un travail qui mérite d'être rémunéré de la même façon.
Parce qu'une fois de plus, tu vois, on parlait de temps. Moi, quand je te dis que j'ai du mal à trouver l'équilibre entre ces deux activités, c'est parce qu'à un moment donné, je me rémunère avec une et pas avec l'autre et que l'énergie, tu vois, elle peut pas être la même. Elle peut pas être la même partout et effectivement, la question se pose, ouais.
Ouais, complètement. Et il y a un quatrième mode de rémunération. Donc moi, c'est ce que j'ai parce que ça rentre dans le cadre de mes activités. C'est les missions freelance, sur le podcasting. Mais aujourd'hui, on va dire que le podcast, c'est un quart de mes revenus sur le mois. Alors parfois, c'est plus. Mais en général, c'est un quart de mes revenus.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok. Ok, très bien. Bah écoute, c'est très intéressant et justement, toi, tu quand tu contactes tes partenaires, tu leur dis quoi exactement? T'essaies de les convaincre? Tu leur transmets quand tu transmets un kit média? J'imagine que tu as peut-être le nombre d'écoutes. Vraiment, c'est un kit complet, quoi.
Oui, bah j'ai ma baseline de mon podcast, en fait le pourquoi finalement du podcast, ensuite les écoutes mensuelles avec la temporalité du podcast, des indications de classement aussi. Mon podcast, il est souvent dans le top 10 dans la catégorie santé mentale, donc pas
d'accord.
En ce moment parce que je publie pas d'épisode depuis quelques semaines, mais quand je publie régulièrement, il y est. Je parle aussi des parutions presse parce que c'est un gage de sérieux, quoi, enfin de...
T'as démarché des agences presse pour ça d'ailleurs, pour les parutions presse ou parfois il y a comme ça?
Oui, au début, oui. Au début, beaucoup.
Okay.
Au début, je contactais même les journalistes pour leur proposer mon podcast avec mon kit média et après, c'est venu naturellement. Je parle aussi de mes formats d'épisodes, de mes invités, de mes chiffres clés, par exemple,
oui,
90%
voilà,
de femmes entre 25 et 45 ans, le profil des auditeurs,
okay.
Des témoignages, des recos d'auditeurs, des avis d'auditeurs. Et ensuite, en fait, l'avantage de choisir le podcast pour sa visibilité, les types de collaborations qui sont envisageables, les sponsors qui ont déjà sponsorisé le podcast, et voilà. Tout simplement.
D'accord, ok.
Mais qui est un peu, un sum up de ce que peut apporter le podcast à la marque.
Ok. Ok, très bien. Toi, justement, j'ai l'impression que tu fais du coup aussi beaucoup d'autres activités. En quoi l'entrepreneuriat te correspond? Quel a été le déclic, toi, justement, pour te lancer en tant qu'entrepreneur? D'ailleurs, tu es entrepreneur depuis combien de temps?
Ça dépend de la définition de l'entrepreneuriat. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est créer un projet, c'est créer des projets, pas forcément des entreprises.
Donc, j'ai la même vision.
Ouais, donc si on considère que l'entrepreneuriat, c'est créer un projet, je pense que je suis entrepreneur depuis toujours. j'ai toujours eu une âme entrepreneuriale. Voilà, j'ai créé mon premier blog. C'était en 2000, enfin, juste après les Skyblogs, je crois. J'ai commencé mon premier blog qui s'appelait Maud Malouf, qui aujourd'hui s'appelle L'Offre en Paris, qui est toujours le même. J'ai créé une marque de t-shirt à message il y a quelques années.
Ah, génial.
Ouais, qui s'appelle une date, une pensée. J'ai fermé le compte Instagram, mais que j'ai eu quelques mois. Voilà. Et puis j'ai créé maintenant ces deux podcasts. J'ai toujours créé des projets en parallèle de mon CDI, parce que je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat, on va dire, entièrement, en lâchant mon CDI par une opportunité de mon mari. Bah justement, cette opportunité pour partir à Dubaï. Mon mari a eu, voilà, en 2019, fin 2019, a eu cette opportunité qu'on a décidé de prendre. Et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai pris la décision de ne pas retrouver de CDI, mais de tenter au départ de gagner ma vie avec mes propres activités. Mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, mais je pense que justement, mon père m'ayant tellement éduquée dans la sécurité de l'emploi, je pense que finalement, depuis toute petite, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça. Et voilà, moi j'ai vraiment été dans nos prises de risques. Il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu restes toujours dans la même boîte. Donc voilà, contre-pied de ça.
D'accord.
Voilà, toi ça a été quoi un peu le déclic ?
Le déclic, je dirais, ça a été une dernière expérience professionnelle qui m'a déplu et ne me correspondait pas, et où vraiment il y a eu un écœurement du coup du membre de l'entreprise. Et avant ça, j'avais une expérience qui était tout son contraire, hein, qui était vraiment très épanouissante et qui d'ailleurs, je pense, a un peu semé la graine du podcast, parce que j'allais justement à la rencontre de personnes qui avaient une histoire à raconter, et tu vois, ça m'a... Je pense que c'est ça qui m'a éveillée là-dessus. Et j'ai adoré faire ce travail et de terminer, tu vois, de changer d'expérience pour avoir une expérience très décevante. Je me suis dit, ok, en fait, ce que j'avais qui me plaisait, donc le métier que j'ai exercé le plus longtemps, je ne le retrouverai pas. Donc vraiment, je me suis dit, prends du temps pour toi, pour savoir ce que tu veux exactement. Et vraiment, c'est venu, tu vois, petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi tu te construirais pas le métier qui te correspond avec tes valeurs ? Et c'est comme ça que c'est né. Je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Voilà, j'ai fait un petit peu un auto-bilan. Et qu'est-ce qui surtout te plaît, en fait ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et c'est venu de là. Et il y avait vraiment cette volonté... déjà ce besoin de liberté, parce que ça c'est quelque chose qui je trouve très frustrant dans le monde du salariat. Je trouve qu'en France on est très en retard sur ça. On fait pas confiance aux salariés, on est encore hyper psychorigide sur les horaires, et c'est quelque chose qui me correspond pas, qui finalement j'ai jamais été de toute manière quelqu'un de très tu vois, qui rentrait vraiment dans les cases. J'ai toujours été un peu rebelle comme ça. Et donc c'était un mélange, un besoin de liberté et aussi de vraiment faire les choses en fonction de mes valeurs, parce que ça a toujours été très dur pour moi de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je suis et de ce que des valeurs que je porte. Donc c'est venu comme ça. Et je me suis dit bah tu te laisses le temps de ton chômage, hein. Je crois qu'on est beaucoup, on est nombreux à faire ça, puisque c'est quand même une sécurité. Tu te laisses le temps de ton chômage pour construire ça, et ça m'épanouit énormément. Donc voilà, ce déclic finalement, ça a été cette expérience négative qui, tu vois, et c'est souvent ça de toute manière, tu tires de ces expériences-là beaucoup de...
Ouais, non, je vois très bien. Moi, c'était pas une expérience négative, tu vois, parce que j'ai des super beaux souvenirs de mes derniers jobs, et j'ai franchement... Je peux dire que j'ai adoré le CDI.
Ah, mais moi aussi, tu vois, mais j'en ai eu une qui m'a vaccinée, tu vois.
Ouais. Ouais, je crois que j'ai eu la chance de pas tomber sur des patrons tyranniques, ouais, ou trucs comme ça. Mais par, ouais, contre, cette absence de liberté, ouais, je le ressens totalement, quoi. Mm. C'est vraiment de pas réussir à porter des projets comme tu le voudrais, parce que tu as ces obligations, bah, oui. du boulot, quoi, et ne pas travailler pour toi-même, c'est hyper frustrant, quoi.
Ouais. Par contre, tu vois, moi, pareil, mes parents ont toujours été salariés et je pensais vraiment pas avoir cette âme-là d'entrepreneur, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est né comme ça. Et encore, j'estime que c'est plus un apprentissage, tu vois.
Complètement. Et qu'est-ce que t'as trouvé le plus facile et au contraire le plus dur quand tu t'es lancée?
Oui, alors écoute, pour ce qui est du plus facile, je dirais... c'est que quand tu as une idée en tête et que la vision de ce que tu veux faire se dessine, tu as une énergie folle, donc tu y vas à fond. Mais à contrario de ça, il y a les périodes de doute qui, elles, peuvent être vraiment très difficiles. Et on en a parlé, c'est ce souci de légitimité. Moi, c'était vraiment très fort chez moi. Et je crois que c'est pour ça hein, qu'est né le podcast, et justement pour essayer de diffuser ça. Mais vraiment, moi, c'était un gros
syndrome de l'imposteur, en fait.
Tout ah ouais, vraiment.
Je l'ai vraiment, énormément vécu aussi.
Tu vois, la création de contenu, il y en a combien de personnes qui font ça? Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai de différent? Tu vois, pourquoi on me prendrait à moi? Et bon, après, ça, c'est des soucis d'estime de soi qui sont à régler, tu vois, et que je travaille toujours. Mais ça, c'est les moments qui sont difficiles. Et je dirais aussi, justement, là, aujourd'hui, ce qui est problématique pour moi, c'est de trouver justement une organisation, par contre. Une organisation parce que j'ai cette envie de faire plein de choses et j'ai parfois tendance à m'éparpiller.
Ah, mais ouais. Je vois tout à fait.
Je me laisse un peu trop aller parfois aux notifications, tu vois, je vais être toujours réactive, donc je vais laisser ce que je fais sur le moment pour répondre à un mail alors que finalement il n'y a aucun caractère urgent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de changer, tu vois. Donc si je pouvais en tout cas donner plusieurs conseils, ça serait de ne pas hésiter à investir dans le coaching. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire à ce moment-là et si j'avais pu, je l'aurais fait. J'aurais gagné sincèrement beaucoup de temps, je pense. À contrario, du coup, j'ai été un peu coachée par mon petit frère qui, lui, c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout le même tempérament. Donc, lui, il est très sûr de lui et puis il est beaucoup plus jeune. Donc, c'est une génération qui, tu vois, il n'a jamais été salarié. Donc, il a ce côté... cette assurance que moi j'ai pas grandi avec hein, clairement et du coup il m'a beaucoup aidée et après ça a été moi qui au fur et à mesure tu vois j'ai travaillé sur moi là-dessus. Donc je dirais voilà le coaching et après essayer de bien s'organiser, de hiérarchiser ses tâches et d'essayer de ne pas trop s'éparpiller. Mais ça encore une fois je crois que c'est aussi une question de tempérament et de personnalité, donc c'est ça qui est difficile, c'est de un peu contrecarrer sa nature profonde finalement pour essayer de se canaliser un peu quoi.
Ouais, exactement. Mmh. Ouais, je rejoins tout à fait ce que tu dis.
Et toi?
Bah moi c'est pareil. Et au début justement ce qui a été très dur c'est que en freelance on a tendance parfois à dire oui à tout parce que t'as cette peur du manque.
C'est ça.
Donc, ce qui a été très dur, en fait, c'est au départ, avec cette peur du manque, finalement, de dire oui à beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément dans ma mission, dans ma vision et dans mes valeurs. Et ça a été très dur, cet éparpillement, à cause de cette peur du manque. Donc, départ, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus dur.
Ouais. Moi, je suis comme toi, tu vois, je suis en plein dans cette période-là, mais par contre, c'est que des projets, qui justement me correspondent et j'arrive pas à dire non, tu vois, parce que je me dis, mais si ça arrive à toi, il faut que tu dises oui. Et puis, effectivement, il y a cette peur du manque, quoi.
Ouais. Et c'est ça. Et puis de vouloir. Et ce qui a été très dur aussi, c'est que justement déjà de me lancer dans plusieurs projets. Donc ça a été. J'avais mon podcast Lalea. J'avais au début j'étais social media manager et copywriter en agence et en entreprise quand j'étais en CDI. Je voulais continuer ces activités, puis développer mon podcast. Puis j'avais créé un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï qui marchait bien. Et puis j'avais l'influence. Et puis j'étais chroniqueuse radio aussi à Dubaï.
Ah oui, mais alors là, je sais pas du tout comment tu faisais en fait, je t'avoue.
Bah c'est ça en fait, j'avais 10 chevaux en même temps et puis finalement je disais oui à tout et puis je voyais que que mais mon énergie partait partout et ne se maximisait pas finalement sur une, deux, trois choses qui me rapportaient en fait voilà le qui m'apportait le plus de valeur, qui voilà, qui était voilà. Donc ça, ce travail de priorisation que j'ai fait aussi grâce au coaching a été complètement indispensable. Et j'ai décidé de me concentrer, voilà, sur les trois choses qui me faisaient le plus vibrer, mais qui a demandé, voilà, une introspection de ma part.
Et c'est déjà beaucoup.
Pardon ?
Et c'est déjà beaucoup.
Et ce qui c'est déjà énorme. Et oui. En plus, je me suis aperçue, et je pense que tu le vois aussi, quand on canalise notre énergie sur une seule et même chose, bah, ça décolle d'autant plus, et j'ai jamais autant bien gagné ma vie sur l'aléa que depuis que j'ai arrêté mon autre podcast Histoire de Dubaï, en fait. Et c'est, ouais, c'est clairement ça. Donc moi, c'est ça qui a été dur, et ce que j'en retirerais, c'est vraiment faire ce travail de plateforme de marque sur ces projets. En gros, c'est ce que je fais moi aujourd'hui sur chaque projet, c'est qu'en fait la plateforme de marque, c'est le fait de se dire, oh, c'est pour ce projet, quelle est la mission, quelle est ma vision, quelles sont mes valeurs. Et si t'es pas capable de répondre à ces questions, abandonne le projet.
Et je dirais aussi, tu vois, si je devais donner un autre conseil que j'ai encore du mal à appliquer et je n'ai pas d'enfant, c'est de parfois s'accorder des moments pour travailler hors de chez soi.
Ouais.
Parce que ça, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. On peut se sentir peut-être un peu isolé. Et aussi, ça nourrit de... Enfin, moi, je sais que ça m'a toujours nourri. Justement, c'est ça que j'adorais dans le salariat quand... j'avais une super équipe, c'est d'être portée par cette énergie de groupe qui me manque souvent. Et c'est voilà, d'accorder des moments quand on le peut pour aller travailler dans des espaces coworking si on en a la possibilité, parce que ça a un coût aussi, ou sinon voilà, d'aller travailler simplement dans un café parce qu'il y en a d'autres qui le font, et ça peut être je pense vraiment sympa. Moi, il faut que je réussisse à le mettre en place, tu vois. Mais ce qui est pas évident, c'est que la création de contenu, je la fais chez moi. Il y a que l'administratif finalement que je peux faire à l'extérieur. Donc, c'est en ça qu'il faudrait vraiment que je me dise, bah, tel jour, tu la consacres qu'à ce qui n'est pas de la création de contenu et que tu peux faire en dehors de chez toi, tu vois.
Oui, complètement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est hyper important. Et ce qui a été aussi très dur aussi pour moi, et c'est ce que je conseillerais aussi, c'est ce... Alors, peut-être que tu l'as pas vécu, mais c'est cette balance entre gratuit vs payant. Ce que tu fais en gratuit pour le temps passé que tu vas faire, qui va pas te rapporter d'argent, mais qui va pouvoir servir ton image et tout ça.
Oui,
VS,
j'allais y venir. C'est un très bon, très bon sujet.
Et ça, mais ça, c'est, moi, ça a été... J'ai passé... beaucoup de temps, beaucoup de mois à faire uniquement du gratuit. Et ça, cette balance de se dire, ok, donner vraiment dans un tableau, dans un tableur Excel, combien de temps réaliser, combien de temps tu passes en gratuit, combien de temps tu passes en payant, et rebalancer les choses, ça m'a énormément aidé aussi.
Oui, bah écoute, je suis dans la même problématique, c'est que justement par cette curiosité, cette envie de transmettre, c'est même souvent en fait, tout le temps, j'ai du mal à la trouver, cette limite-là.
Ouais.
Et là, je suis arrivée au bout, en fait. Parce que je me dis, Claire, c'est pas possible, il y a que tu trouves pas le temps pour faire ces deux activités-là.
Ouais.
C'est qu'il y a, tu mets trop d'énergie dans certaines choses qui
oui,
sont
exactement.
Certes. Ultra intéressante et nourrissante pour toi, pour ta communauté, mais qui ne me génère aucun revenu. Et il faut que la balance se rééquilibre, parce que je m'épuise, ça m'épuise quand même de travailler gratuitement. Et surtout, voilà, il y a ce côté, je vais me confier un peu, mais cette impression parfois aussi de tendre la main et puis on te prend le bras. T'as l'impression presque que ça se multiplie, en fait, le mot se donne, elle travaille gratuitement, c'est vraiment, tu vois, cette idée de tableau, elle est excellente et je vais m'y mettre.
Ouais, fixer les limites, fixer les limites de ton temps qui n'est pas...
Exactement.
Qui n'est pas infini, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est des vrais sujets qui sont durs.
Là,
mais après, c'est une volonté.
Moi,
je sais que pendant 2 ans, ça a été très, très dur. J'ai vraiment pataugé avec ça. Et quand j'ai décidé, grâce à des coachings, que ça allait être autrement, et j'ai créé carrément un business plan aujourd'hui avec mes activités et avec, je sais, en fait... combien de clients je dois avoir pour gagner tant. Enfin, aujourd'hui, tout est pensé, ouais, en fait, en termes d'argent. Mais tout ça, ça a été un travail, si tu veux, qui s'est, ouais, pas fait en un jour, quoi. C'est normal. Mais,
et oui.
Mais voilà.
Ouais, je pense que t'as pas mal de choses à m'apprendre là-dessus. Parce qu'effectivement, ouais, mais ça, c'est le fruit du coaching. Hein, c'est,
ouais, bien sûr.
Ça a l'air vraiment... tu vois, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en place. Je pense que ça finirait de enfin, ça me permettrait d'aboutir ce travail que j'ai commencé à construire, mais qui n'est pas encore abouti, tu vois. Parce qu'effectivement, ouais, moi, j'ai ce côté-là où je vais être très, dans la générosité, dans cet esprit de sororité. Et tu veux vraiment à chaque fois, tu vois, moi, quand on me contacte, j'ai du mal à dire, ah ouais, mais non, mais tu vois, et j'ai envie, je me dis, mais ça a l'air, c'est super chouette. Et,
bien sûr. Mais surtout dans ton métier ou dans ton métier ou bien sûr où tu travailles avec les marques, donc moi je les vois alors à dans une autre mesure parce que on n'a pas le même nombre d'abonnés, quoi, clairement, mais je le vois dans une autre mesure avec moi à quel point les marques peuvent être gourmandes et peuvent penser que ton temps est,
ouais,
voilà, et voilà, enfin c'est une question de fixer les règles, ouais, mais c'est pas évident.
Oui. Et non, c'est pas évident, et c'est important non seulement pour parce qu'on a nous aussi nos objectifs, enfin de la même manière qu'elles veulent développer leur activité,
bien
pour
sûr,
en vivre, nous il faut qu'on vive, et puis aussi pour éviter je sais pas comment utiliser le bon terme, mais l'écœurement humain, tu vois, parce que c'est, ouais, très décevant, en fait ça peut être vraiment parfois ce sentiment d'être un petit peu utilisé qui,
ouais,
moi peut me tordre le ventre, tu vois.
Ouais, complètement. Je comprends.
Voilà.
Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais
c'est
après, je pense
qu'avec,
je pense que quand on sait nos propres objectifs et quand c'est chiffré, parce que c'est peut-être bête à dire, mais à partir du moment où c'est chiffré et où tu sais que tu dois faire tant par mois sur cette activité-là, tu choisis aussi ce que tu fais en gratuit, quoi. C'est, et
oui,
tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un projet d'écrire mon livre sur l'aléa. Enfin, tu vois, c'est un projet que
beau projet.
Ouais, c'est un projet dont je rêve depuis quelques mois déjà, et que j'essaye beaucoup plus concrètement de mettre en place. Donc, tu vois, je pratique aussi cette méthode du time blocking, tu vois, où t'as du temps vraiment sur ton projet qui va pas te rapporter dans ton emploi du temps. Mais tu vois, c'est aussi grâce à cette méthode de time blocking de fixer dans mon emploi du temps une heure par jour à l'avance dédiée à ce projet qui me permet de ne pas trop déborder, tu vois, sur
ouais, ouais. Et ça, tu vois, j'en ai pas parlé. En tout cas, c'est un très très beau projet, vraiment.
Ouais.
J'ai hâte que ça avance.
Ouais, bah là, je suis en pleine recherche, enfin voilà, de regarder quelles sont les maisons d'édition qui pourraient au mieux soutenir en fait mon livre, enfin sur lesquels je pourrais, donc j'en ai vu dans le développement personnel pas mal. Et d'ailleurs, pour parler de développement personnel, toi, t'intéresses beaucoup à ces sujets, voilà, t'es dans le bien-être, dans le dev perso, bah c'est d'ailleurs vraiment, tu partages au maximum sur ça, enfin sur tes réseaux sociaux et via ton podcast. D'où te vient cet intérêt, cette passion pour ces sujets?
Oui, alors d'où ça vient, donc moi j'ai perdu mes deux parents en 3 ans d'intervalle, donc je crois que c'est, enfin je crois pas, j'en suis certaine, en fait quand tu es face à des épreuves comme ça, tu remets énormément de choses en question,
surtout
tu réfléchis.
T'étais à combien de temps ? T'étais enfant ou t'étais...
J'ai perdu ma maman en 2009 et mon papa en 2012. Voilà, donc j'avais, tu vois, 20 ans et 20, voilà, 23.
Dans des années en plus charnières, quoi, où tu...
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été deux décès abordés de deux manières différentes, les deux de manière très douloureuse, et il y a perdre un de ses parents et perdre le second, tu vois, en si peu de temps, tu développes une autre approche.
Ouais.
Le deuil ne se fait pas de la même manière, tu ressens beaucoup d'injustice, tu te dis que
ça
arrive pas, en fait, que quand t'en perds un, t'es pas censé perdre l'autre dans la foulée. Donc c'est toutes ces questions, tu t'es confronté en fait à des moments qui sont tellement difficiles que c'est soit...
Tu survis
tu
ou
sombres.
Tu te sombres. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Soit tu mets tout en œuvre pour pour surmonter ça du mieux que tu peux et honorer la vie qu'ils t'ont donnée aussi. Donc, tu vois, moi, à l'époque, j'ai fait le travail que je savais même pas que ça s'appelait du développement personnel, tu vois, mais je me suis mis à... Enfin bon, j'ai vu, bien sûr, un psychiatre, parce que ça, c'était indispensable. Moi, on va en parler, mais j'ai de l'anxiété, je traverse des périodes d'anxiété. Et donc, forcément, ça a réveillé de l'anxiété très forte chez moi au décès de mon papa, donc après ma maman. Et donc j'ai dû voir un psychiatre et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturel pour aller mieux.
Mais par toi-même ou quelqu'un s'est occupé de toi parce que t'étais jeune quand même, et si t'as un petit frère je crois donc...
Oui, j'ai été justement tutrice de mon petit frère, donc vraiment ça a été assez compliqué. Mais c'est mon psychiatre, qui m'a dit de m'intéresser à la méditation et au yoga. Et du coup, c'est comme ça qu'est rentré le yoga dans ma vie. Et je dirais que toute la transformation, elle est née du yoga. Vraiment, parce que j'avais un professeur qui est un excellent professeur quand j'habitais à Perpignan, qui, durant ses cours, en fait, lisait toujours des passages, justement, de livres de développement personnel ou liés au bouddhisme, évidemment, puisque c'est lié au yoga. Mais voilà, et c'est vraiment tout ça, à chaque cours, ça a éveillé vraiment... C'est ce qu'on appelle la spiritualité, hein. Finalement, le développement personnel et la spiritualité, c'est pratiquement la même chose. Souvent on dit que la spiritualité c'est quelque chose, enfin c'est relié à l'ésotérisme, mais pas du tout. La spiritualité c'est vraiment élever sa conscience, tout simplement. Et à partir du moment où tu te poses des questions sur ce que tu souhaites devenir, sur la direction que tu veux que prenne ta vie et ce que tu veux aussi diffuser autour de toi, ben c'est ça la spiritualité. Donc voilà, ça a vraiment éveillé ça chez moi et ça n'a cessé de grandir.
Et tu arrives à expliquer en quoi le yoga t'a guéri en fait. Comment ça s'est passé rationnel? Enfin, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi, comment?
Justement par cet éveil-là.
Ouais.
Et par la maîtrise du souffle, déjà l'importance du souffle, c'est ce que t'apprends le yoga en premier. C'est qu'avec la respiration, tu es capable de surmonter énormément de choses. Et cet éveillement spirituel et aussi et surtout aussi apprendre à vivre dans le respect du vivant. Voilà, à vraiment comprendre que tes gestes et tes décisions ont un impact sur les autres et sur la planète et la sensibilisation, elle est née là, quoi. Donc, j'ai entamé ce travail il y a 10 ans.
D'accord. Ça met des frissons dans mon histoire.
C'est pour ça que quand je dis que le yoga m'a sauvé la vie, il m'a réellement sauvé la vie.
Par le souffle, en fait, par ta gestion de la douleur, par le souffle, en fait.
Ouais, et par cette transformation que ça a engendré chez moi, quoi.
Dans tout ton être,
C'est ça. Mais ça m'a transformée, vraiment. Après, il y a des gens qui arrivent au yoga, tu vois, pour le côté physique, parce que c'est physique. Mais moi, c'était pas du tout ça. Ça a été vraiment d'abord cet éveil spirituel et m'apprendre la respiration.
Moi, j'en suis pas arrivée là, tu vois. J'ai essayé plein de fois le yoga et là, encore il y a 2 jours, tu vois, j'ai fait une séance et j'arrive pas encore à sentir. Je sais que c'est bon, mais je suis pas encore dans ce truc où vraiment ça devient vital, tu vois. Ça devient vraiment une routine, comme on entend parler des gens qui font du yoga, ils peuvent plus s'en passer, quoi. Ça devient vraiment une hygiène de vie.
Mais parce
une routine.
Que je crois que
j'ai pas encore dépassé ça, tu vois. J'arrive pas encore à.
Mais
dépasser
parce qu'il faut
ça.
Peut-être que tout simplement tu trouves ton truc à toi, tu vois. Moi, je sais le yoga qui m'a éveillée, enfin qui m'a amenée à l'éveil spirituel. Mais toi, tu peux. T'éveiller spirituellement avec autre chose, tu vois, avec ton contact avec la nature, en lisant, et du coup à côté de ça, faire une activité qui t'apprenne à respirer et qui toutes les activités finalement tu peux pas faire d'activité physique sans respirer. Donc tu vois peut-être que toi, ton truc, c'est de faire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de la natation. Tu vois, je suis pas pour dire faites tous du yoga, c'est merveilleux. Non, ça correspond pas à tout le monde.
Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je pense que ça a des bonnes vertus quand même. Moi aussi, je suis très angoissée de nature et donc je pense que ça a des bonnes vertus. Tu vois, j'ai envie un peu de dépasser ce truc parce que je sais quel bienfait ça peut apporter derrière, tu vois. Parce qu'à chaque fois que j'en fais, d'ailleurs, je me sens bien, mais c'est juste que, voilà, c'est pas encore
ouais,
dans mon quotidien.
Mais c'est vrai que c'est, ouais. Mmh. Il faut, après, tu vois, j'ai pas été, moi, de ces personnes qui, dès qu'ils ont découvert ça, ils en ont fait 5 fois par semaine. Pas du tout.
Ça a
été une construction, ouais. Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui aimait le sport. Donc, tu vois, bon, je préfère lire un livre que me bouger un petit peu, à l'époque, me bouger les fesses, tu vois. Et c'est vraiment venu sur le tas quand j'ai vu les bienfaits que ça avait sur moi, physiquement et mentalement, que j'y ai pris goût. Et je me suis dit, non, ben, arrête de faire ta feignante parce qu'en fait, tu te sens tellement mieux après que ça vaut le coup de se bouger, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et c'est un outil parmi d'autres qui me permettent au moins d'apaiser mon anxiété, même si je crois que l'anxiété c'est le travail de toute une vie, honnêtement, parce que tu crois toujours que que c'est bon, t'es armé, que tu l'as dépassé, que elle t'emportera jamais, et en fait c'est faux, quoi. Toi, c'est quoi ton rapport au bien-être, justement ?
Alors, j'ai toujours vécu des grandes périodes d'anxiété. J'étais une enfant qui était très anxieuse. Je pense que je me suis jamais confrontée vraiment à moi-même et à mes parts d'ombre. Voilà, j'avais une crise d'anxiété. Je prenais un peu d'homéopathie. Puis le lendemain, ça passait. Puis voilà, quand je suis arrivée à Dubaï, et que je pense que ça correspond aussi à la naissance de ma fille, j'ai plus pu faire autrement que de comprendre en fait d'où venaient ces problèmes, parce que d'où venait cette anxiété, parce que c'est mon corps qui a commencé à parler. J'ai commencé à avoir des douleurs inexpliquées, pas comprendre ce que j'avais, faire des radios, prendre voilà des antidouleurs, des choses comme ça qui ne servent à rien, puis vivre totalement dans la douleur, en fait, dans la douleur permanente, constante, qui ne s'en va jamais, à aller voir des médecins qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui me disent que j'ai rien, qui me disent que je suis dépressive, qui me foutent sous antidépresseurs, que je ne prends pas parce que c'est encore pire. Et puis, jusqu'au jour où je suis complètement déprimée, je deviens l'ombre de moi-même, et puis je me décide à me tourner vers de la médecine alternative. Et puis je vois que quand je commence à avoir une énergéticienne, d'ailleurs, que j'ai reçue sur mon podcast, ça va un petit peu mieux, et puis la douleur part, mais quelques semaines après, la douleur revient. Et en fait, au fur et à mesure que je me traite par la médecine alternative, peu à peu, où je me traite en allant explorer mes anciennes vies, peu à peu, ces douleurs partent, en fait. Peu à peu, en travaillant, en fait, sur moi-même, en allant voir des hypnothérapeutes, en allant voir des axiothérapeutes, enfin, en allant voir vraiment tout ce que je peux aller explorer, oui, dans ma vie présente et dans mes vies d'avant, font que je vais mieux.
De comprendre et en de fait. Te soulager. Ouais.
Voilà, c'est ça, me guérissent. Et donc, c'est que ça, en fait, que j'ai commencé. Et en fait, tout ça s'est passé aussi en parallèle de mon podcast. Hein. Je suis aussi passée ma transition, je te disais tout à l'heure, de mon risque extrême à finalement l'alignement et la connaissance de soi. Ça a pris le même chemin, en fait. C'est pas tous ces profils à qui j'ai tendu mon micro dans ce podcast était aussi pour répondre à moi, à mes propres problématiques. Toi aujourd'hui, donc, comment tu gères cette anxiété concrètement ? Donc, on a parlé du souffle, oui. Et quelles sont tes sources de bien-être ?
Alors, ce que je vais partager, j'aime plutôt le mot ressources, parce que d'accord, j'avais fait un travail, tu vois, avec ma psychologue sur les ressources justement internes et externes. Elle m'avait fait travailler sur cette notion de ressources que tu as en toi, qui ne dépendent de aucun facteur extérieur, donc auxquelles tu peux faire appel à n'importe quel moment, et pour si jamais justement tu n'as pas tes ressources externes. Par exemple, si tu n'as pas la possibilité de faire du yoga là maintenant où tu es, tu vois, c'est cette nuance-là, et j'avais trouvé ce travail très intéressant, c'est pour ça que je tenais à le partager. Mais voilà, pour tout ce qui est ressources internes, je dirais... déjà la capacité à s'émerveiller que j'ai depuis que je suis enfant et qui m'a été inculquée par mon papa. J'ai vraiment cette capacité à trouver le beau dans toutes les choses qui m'entourent, que ce soit, je sais pas, tu vois, je veux voir une feuille voler, j'exagère, mais voilà, je suis vraiment en capacité de m'émerveiller parce que j'ai vu une feuille par terre, parce que il y a un rayon de soleil qui forme, tu vois. Je dis des bêtises, mais ça, c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'aide beaucoup. Ça me permet toujours de voir ce qu'il y a de positif autour de moi, tu vois. Et avec ça, je dirais aussi le souffle, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose auquel tu peux faire appel n'importe quand. Et voilà, la patience, je sais faire preuve de beaucoup de résilience et ça c'est une force. Tu vois, j'ai jamais eu envie de changer le passé et pourtant j'ai, voilà, je t'ai parlé du décès de mes deux parents, mais j'ai aussi eu un divorce douloureux.
Ah, tu as divorcé?
Ouais.
D'accord. T'es jeune. Hein.
Donc voilà, ça a été toutes ces étapes-là. Mais tu vois, il y a rien. J'ai appris de chaque épreuve et je sais toujours m'adapter en fait. Peu importe là où. La situation dans laquelle je suis, ça c'est une grande force et il faut que je m'en rappelle. Je l'oublie parfois, tu vois, quand je n'y suis pas confrontée, mais au final c'est de la force et donc voilà pour ces ressources-là et le silence aussi. Le silence à contrario la musique aussi me font énormément de bien. La nature, je l'ai pas évoqué, mais me balader, tu vois, dans la nature, ça me fait énormément de bien. Mais ça, c'est plus une ressource externe, effectivement, à laquelle j'ajouterai donc le yoga, comme on l'a dit, la lecture, parce que ça, c'est une passion, je crois que c'est ma première passion. C'est celle que je lis depuis que je suis petite. Il n'y a jamais eu un moment où je n'étais pas en train d'avoir un livre, tu vois, en cours. Et c'est vraiment, c'est assez méditatif pour moi. Et après, j'essaie d'intégrer la méditation, mais c'est un peu plus difficile.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, quand t'as de l'angoisse qui se manifeste, tu fais tout ça, quoi. Tu réussis à la canaliser avec tout ça. D'accord.
Ouais. Et je suis en capacité aussi de maintenant voir ce qui est compatible ou pas avec mon anxiété. Tu vois, par exemple, mon travail aujourd'hui, je sais qu'il, quand je travaille trop, c'est anxiogène. Si je passe trop de temps à switcher, tu vois, entre toutes les notifications, les mails, travailler à 200 à l'heure sur les écrans, ça, c'est totalement anxiogène. Je sais qu'au bout d'un moment, j'ai un poids sur la poitrine et là, je sais qu'il faut que j'arrête.
Ouais,
quoi.
Il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes du temps pour toi. Ouais, je comprends.
Exactement.
Mmh. Ok, d'accord.
Et toi ?
Et moi, bah écoute... je suis en chemin, hein. Quand j'ai des périodes comme ça de douleur et d'angoisse, j'essaye, j'ai pas vraiment de solution magique, mais j'essaye vraiment maintenant d'avoir au moins une journée off, vraiment par week-end, enfin, par semaine, en fait, parce qu'avant, je travaillais au moins un petit peu le samedi, au moins un petit peu le dimanche. Donc maintenant, j'essaye, voilà, vraiment d'avoir une journée entière où je ne pense pas au travail et où je suis déconnectée avec mon mari et maintenant mes enfants. M'écrire des lettres aussi à moi-même, je le fais pas mal aussi, tu vois, quand je vais pas bien.
Ah, ça c'est chouette.
Ouais, j'essaye de m'écrire en fait des lettres, tu vois, pour me rassurer en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si, tu vois, j'écrivais, ça marche pas mal ça.
C'est rigolo parce que c'est un conseil que m'a donné une masseuse énergéticienne justement que j'ai vue il y a pas longtemps. Et il faut que je le fasse, tu vois, mais je sais pas pour quelle raison. Moi, j'ai un blocage vis-à-vis de ça, tu vois, par contre.
Ah ouais. Et bah, moi,
alors, j'adore écrire, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tu vois, quand il s'agit de sortir ce que tu as, je suis bloquée.
Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ça, c'est vrai bénéfice, en fait. Parce que, tu relis.
Ah oui, totalement.
Tu écris et tu relis.
Le peu de fois que je l'ai fait, je trouve. Ouais.
C'est ça. La respiration aussi, comme tu dis, hein, la respiration carrée. Moi, je fais la respiration carrée, tu vois, inspirer 5 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça, c'est vrai que quand je suis en crise, et ça, c'est Arnaud Gérald, qui est champion du monde d'apnée, que j'avais reçu sur mon podcast, qui pratiquait ça pour faire un peu le vide dans son esprit.
Ça aide énormément, ouais. C'est ça. Et je dirais que la difficulté, tu vois, elle est, de ne pas lâcher ça, même quand tu te sens très bien.
Exactement. Et ça, c'est tout à fait ça. C'est une routine à prendre, en fait. Ça, c'est totalement ça.
Ouais.
C'est même quand ça va bien, avoir cette routine. Totalement.
Exactement.
Totalement.
Mmh. Et justement, tu m'offres la transition de dire que le tout, en fait, c'est de... Tu vois, c'est là où je trouve que l'essor du bien-être depuis le confinement a ça de bon, c'est qu'elle nous ouvre à la connaissance d'outils qu'on n'est pas obligé de tout faire, hein,
exactement,
parce qu'il y a aussi cette pression là de qui est aux antipodes du bien-être de devoir à tout prix mettre 1000 routines, faire toutes les tendances qu'on entend. Il faut vraiment tester voir ce qui nous convient, ce qui est aussi possible de mettre dans son quotidien, hein. Parfois il y a des choses qui ne sont pas possibles à appliquer. Et après de garder cette habitude-là, de ne pas être trop ambitieuse en se dire oui je vais faire ça, ça, ça. Enfin voilà, voilà, énormément de rituels parce que on nous bourre le crâne de ça. Non, déjà en trouver quelques-uns et les appliquer tous les jours, c'est déjà beaucoup. Et voilà, c'est trouver ce qui nous correspond. Ouais. C'est ça. Au début, ça demande des petits efforts, mais après ça, si on a trouvé ce qui nous correspond, ça rentre naturellement quoi.
Ouais, et puis chacun ses outils, chacun ses moments, et puis chacun ses déclics aussi pour s'y mettre et pour s'y mettre, parce que il y a des personnes, tu vois, toi t'as eu le décès de tes parents, moi j'ai eu ces douleurs qui sont venues taper, voilà, il se peut que votre moment ne soit pas là, et donc il y a aucune obligation à être dans le bien-être et dans le dev perso si c'est pas le moment, et voilà, et chacun son moment.
Non, mais c'est ça. Et puis en général, de toute manière, c'est quand on, tu sais, c'est cette phrase qui est galvaudée, que tu dis que c'est quand tu touches le fond que tu trouves voilà toute la force que tu as en toi et cette envie de changement. Mais moi, je crois que c'est en fait, ça peut pas arriver autrement. Si t'es bien, si tu vois, si t'es pas confronté à des épreuves, si t'es pas confronté à de l'anxiété, pourquoi tu te poserais toutes ces questions? Il y a pas ce besoin, donc il faut pas aller créer un besoin qui n'est pas là, quoi. Mais écoute, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Cet épisode, du coup, étant assez exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on le fait ensemble pour justement célébrer cette occasion. On va organiser un concours avec la marque de thé matcha Anatae, que j'avais justement interviewé sur le podcast et qui justement a vraiment elle aussi beaucoup à transmettre. Donc
alors moi je l'ai pas interviewée, mais j'ai collaboré avec elle, mais toi tu l'as interviewée sur ton podcast. Ouais. Moi j'ai eu l'occasion de tester son thé magnifique qui vient du Japon et qui est incroyable. Et
t'as pu échanger avec elle du coup et voir à quel point elle était passionnée, investie dans sa marque. Et du coup, je suis super contente qu'on puisse organiser toutes les trois ce concours-là pour marquer un petit peu cette sortie d'épisode croisé. On tiendra à informer les auditeurs de la sortie de l'épisode et du concours.
Exactement. Bah, ce sera le lendemain qui suivra, je pense, la diffusion de cet épisode. On organisera le concours. Donc, restez connectés sur nos comptes Instagram.
Voilà.
De toute façon, on vous donnera toutes les infos qui seront sous le post collaboratif. Et bah,
merci beaucoup, Claire.
À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.